Nous aurons donc 5 jours de réflexion philosophique, théologique et mystique. Je dis bien, parce que nous maintenons toujours les 3 degrés, les 3 étages, si vous voulez. C'est bon, du reste, comme réflexion. Et alors, il y aura le soubassement de la science qui sera là de temps en temps. Mais je veux avant tout, c'est avant tout au plan philosophique que nous faisons ça. Nous le faisons dans une très grande familiarité et une très grande confiance, c'est-à-dire que il y aura des petites rencontres l'après-midi, tous les jours. On verra le nombre que vous êtes, et ça c'est le père, c'est le frère Jean-Emmanuel qui va organiser ça, comme assistant, n'est-ce pas ? Alors c'est lui qui organisera ça, parce que je crois que c'est bon d'avoir des petits groupes où on peut discuter, on peut poser les questions. Je ne vous poserai pas les questions après les conférences, ça mène trop loin. Mais pendant les conférences, notez ce qui vous choque, ce qui vous intéresse, ce qui vous pose des questions. Vous voyez, je crois qu'il faut toujours avoir à côté de soi, ça fait partie de la manière dont on doit travailler, à côté de soi une feuille libre. On prend ses notes et puis on a une feuille libre sur laquelle on note tout de suite les interrogations. Dès qu'il y a une interrogation, on la note. C'est bon. Alors peut-être qu'après, en la relisant, on dira « mais c'est idiot les gens ». C'est pour ça que la plupart du temps, quand on pose une question immédiatement, il suffit d'une heure après pour se dire « mais non, c'était pas la peine ». C'était pas la peine de la poser. Alors, c'est bon de la poser, c'est bon toujours d'exprimer une interrogation, c'est pas toujours commode, du reste, de l'exprimer. C'est pour ça qu'on voit souvent que quelquefois, il y a des réactions affectives et qui ne s'expriment pas facilement. Alors, je dis ça quand même un peu comme méthode de travail, c'est ce qu'on a toujours fait les autres années, et on a vu que ça permettait petit à petit de faire que le groupe que nous formons entre nous se soude au point de vue intellectuel, au plan spirituel aussi, puisqu'il y a les deux choses. Donc, l'après-midi, vous aurez un moment de rencontre entre vous par petits groupes. Et puis alors, chaque responsable des groupes note les questions importantes, laisse tomber les questions secondaires. Je les reprends à peu près toujours, parce que je crois que c'est bon, l'après-midi, dans la conférence de l'après-midi. On aura 2 grosses conférences philosophiques, la messe à 11h, comme ça nous avons la messe entre nous, c'est mieux, je crois, le père Montenard est tout à fait d'accord là-dessus. Alors nous avons notre messe à 11h, et puis 2 grosses conférences, un moment de contemplation et d'adoration et de réflexion l'après-midi, ceux qui peuvent prier, prier à ce moment-là, ceux qui trouvent que c'est un peu long, ils peuvent réfléchir, et puis, parce que c'est bon de réfléchir sur ce que nous voyons ensemble, et puis le soir, nous avons une réflexion plus spirituelle, ici aussi. Puis les complis, je crois, le soir, après, normalement. On termine la journée par les complis. Le matin, on les commence par l'hôte, ceux qui désirent venir. On vous dira les heures exactes. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, c'est la mise en route. Alors, il y a du retard. Il n'y en a pas encore trop, c'est vrai, ça, c'est encore assez remarquable. D'habitude, il y a un peu plus de retard. Mais au fond, maintenant, ça va commencer à prendre. Parce que je crois qu'il faut être très strict pour le petit programme. Autrement, on s'attend indéfiniment et alors on perd du temps. C'est tout à fait inutile. Je crois que vous êtes très strict, je commencerai à l'heure, même si les gens ne sont pas là. Alors, arrivez quand même, hein. C'est sûr, si vous arrivez 10 minutes en retard, tant pis, venez. Mais je commencerai toujours à l'heure. Ça, de façon très nette. Je crois que c'est bon pour que nous soyons... Sauf le soir, on ne peut pas savoir exactement. Ça, le soir, ça ne déterminera pas. Je ne sais pas, il y a la cloche ce soir. Hein? Ou bien c'est vous qui le dites, je vous arrangerai ça le soir, parce que le soir, à cause de la vaisselle, à cause du repas, on n'est pas entièrement libre de ces activités. Alors le sujet, vous l'avez vu, le sujet est un sujet très important pour nous, c'est d'essayer de découvrir ce que représente la finalité de la vie humaine. En définitive, c'est ça. C'est découvrir ce pourquoi nous sommes faits. Le découvrir d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire par une réflexion sur nos propres activités, sur nos propres expériences. Vous verrez progressivement qu'est-ce que ça représente, la réflexion philosophique. Parce qu'au fond, le but, c'est quand même que vous compreniez la réflexion philosophique. Alors, découvrir la finalité de l'esprit, c'est-à-dire de la vie humaine, et comprendre comment cette finalité, de fait, au point de vue philosophique, va être reprise en charge d'une manière toute particulière au niveau divin, de notre vie divine. Vous savez bien ce qu'on a cessé de répéter, ce que vous, je crois, savez aussi, la grâce ne détruit pas la nature. Bon, ça c'est un petit slogan qu'on répète, et c'est très juste de le répéter, il faut le dire, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, la grâce ne détruit pas la nature. Vous voyez, quand je parle de la grâce, je suis au niveau théologique, et quand je suis au niveau de ce qu'aurait la réflexion de la philosophie de l'homme, je suis au niveau philosophique. Eh bien, de fait, il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. La vie divine ne détruit pas la vie humaine, mais la vie divine ennoblit la vie humaine. Elle donne à la vie humaine quelque chose de beaucoup plus profond. Et nous verrons que, de fait, au plan théologique, nous pouvons dire que notre vie humaine, au point de départ, est réalisée dans une terrible complexité, ce que nous appelons le péché originel. Au fond, nous ne naissons pas dans un état d'innocence. Et j'allais dire, tout le drame est là. Tout le drame est là, vous comprenez. Parce que c'est très vrai, si on naissait dans un état d'innocence, on aurait au moins un souvenir d'innocence. Tandis que vous n'avez aucun souvenir d'innocence. Ce qui n'est pas commode. Vous arrivez petit à petit à acquérir une innocence au plan divin. Une pureté, une limpidité du cœur, un amour. Parce que l'innocence, en réalité, c'est l'amour. C'est aimer. Dieu est innocent parce qu'il est amour. Et que toute faute vient impliquer quelque chose qui brise l'innocence. Or, de fait, la théologie nous le dit, la foi nous dit que nous naissons dans un état de péché. Mais le philosophe ne le sait pas. Le philosophe comprend qu'il y a une complexité terrible en nous. Et c'est cette complexité terrible que le philosophe va essayer de comprendre, pour essayer de saisir dans cette complexité qu'est-ce qu'il y a comme ligne de force. Et c'est cette complexité dans laquelle nous naissons qui explique comment, au niveau psychologique, comment, au niveau sociologique, on n'arrive pas à s'en tirer. Ça, je voudrais que vous arriverez petit à petit à comprendre qu'il ne peut pas y avoir de solution au niveau purement psychologique, parce que nous naissons dans le péché originel. Si notre vie commençait par un état d'innocence, la psychologie pourrait peut-être, je dis pourrait peut-être, il faudra encore voir. Je ne sais pas ce que serait que la psychologie d'un être innocent. Je crois que la psychologie peut-être n'existerait pas. C'est terrible ça. Alors on va dire la psychologie va... Je pose ça comme point d'interrogation. C'est un point d'interrogation qu'on doit se poser. Est-ce que la psychologie n'existe que parce que, de fait, les conséquences du péché font que le retournement sur nous est très très fort. Et alors, on aime de le regarder pour lui-même. Ça, c'est un très gros problème. C'est un très gros problème. Je ne solutionne pas. Je pose simplement un point d'interrogation. De temps en temps, je vous poserai des points d'interrogation. Vous voyez, et ça aussi, c'est intéressant de se poser des points d'interrogation. De savoir que, parce que c'est vrai, nous ne réfléchissons pas là-dessus d'habitude. Alors, c'est important d'y réfléchir, voir progressivement comment le philosophe va pouvoir distinguer certains aspects que le psychologue ne distingue pas. Évidemment, il faut faire attention quand vous avez des psychologues avec vous, de ne pas dire ça trop brutalement, parce que ça les énerve. Alors, il faut faire attention. Mais ici, nous parlons philosophique. Alors, même s'il y a des psychologues, je les énerverai peut-être, mais je les énerverai pleinement, consciemment, pour qu'ils essaient d'entrer dans le domaine philosophique. Quand on est avec eux uniquement, on fait un petit peu attention pour ne pas les brusquer. La première chose que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est la première interrogation. Nous sommes dans un climat positiviste aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce climat positiviste, et puis nous allons essayer de briser ce climat positiviste. Parce que le climat positiviste supprime la réflexion philosophique. Et donc, le philosophe ne peut pas accepter ce climat positiviste. Ce climat positiviste a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'il fait le lien entre l'Est et l'Ouest. C'est un faux œcuménisme, au point de vue de la pensée. C'est que, si je regarde ce qu'est l'idéologie marxiste, je vois que l'idéologie marxiste avec Lénine, c'est lié au positivisme, c'est lié à la science. De sorte qu'il y a, et c'est ça qui est très important de comprendre, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut comprendre, même au niveau politique. Il y a des tas de choses qu'on ne peut comprendre que quand on comprend qu'il y a, entre l'Est et l'Ouest, alors vous comprenez, Gog et Magog, hein, dans le langage de l'Apocalypse, quand il y a un lien entre l'Amérique et la Russie soviétique. Politiquement, ça s'oppose, et il y a des manifestations qui s'opposent, et puis, très profondément, il y a un lien. C'est très cru. Parce que le positivisme du libéralisme américain implique justement une conception de l'homme qui n'est pas une véritable conception de l'homme. Et le marxisme positiviste de Lénine implique une conception de l'homme qui n'est pas une vraie conception de l'homme. Et là, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Que le positivisme, ce qu'on appelle le positivisme, vous essaierez de comprendre progressivement, hein. Certains d'entre vous savent très bien ce que c'est que le positivisme, mais d'autres, c'est vague, hein. C'est assez vague, qu'est-ce que c'est que le positivisme? Bon, le positivisme, lui, n'a pas de couleur politique, tandis que le marxisme a une couleur politique. C'est très curieux. Mais ça, le marxisme a une couleur politique. Le marxisme s'incarne dans une conception politique, économique, et dans une conception qui veut justement dominer. Il ne faut pas l'oublier. Le marxisme fait que tout est pour la puissance et la domination. Le libéralisme positiviste, lui aussi veut dominer. Et c'est ce qui explique la rivalité et les oppositions. C'est pour ça que je vous dis, le langage de l'Apocalypse est assez net quand il dit Gog et Magog, pour nous faire comprendre qu'au terme, tout va se résumer dans deux puissances qui seront en opposition. Alors évidemment, on peut dire qu'il y en a une troisième, il y a le péril jaune, n'est-ce pas ? C'est évident. Donc on n'est pas encore uniquement Gog et Magog, mais il faut voir un tout petit peu du reste. Il y a des nuances, parce que là aussi il y a peut-être des infiltrations. Bon, je n'entre pas là-dedans parce que nous ne faisons pas de politique. Mais ce que je veux, c'est essayer de comprendre avec vous qu'il y a une idéologie particulière qu'on appelle le positivisme. Alors, je vous rappelle en deux mots la différence de la philosophie et de l'idéologie. C'est très important de le saisir, ça. La philosophie, si on emploie le mot philosophie au sens plénier du mot, c'est l'ami de la sagesse, le philosophe. C'est pour ça que c'est si difficile d'être philosophe. C'est l'ami de la sagesse. Le philosophe cherche la vérité, dans la mesure où il peut l'atteindre. Il cherche la vérité. C'est pour ça qu'une vraie philosophie respecte tout le temps l'homme. Je crois qu'on dit, on peut dire, pour simplifier, mais ça reste vrai, que toute philosophie est pour l'homme, tandis que toute idéologie domine l'homme. Et là, vous avez un point de repère qui est facile à comprendre et qui est intéressant, parce que c'est autour de l'homme que va se faire le partage des eaux. Et c'est ça qui est intéressant. Si on fait de la philosophie, c'est pour être un peu plus homme. Je présume, c'est pour ça, autrement, c'est pas la peine, n'est-ce pas ? Mais c'est pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la grandeur de l'homme. Et si on est chrétien, on voit que le pape ne cesse de nous rappeler qu'il faut regarder la grandeur de l'homme. Et c'est intéressant à ce point de vue-là, c'est qu'on voit très bien qu'il a là un souci philosophique et un souci théologique. Parce qu'il sent que le grand péril d'aujourd'hui, c'est la destruction de l'homme. Ça, il le sent. Il le sent d'une façon très très forte. Il l'a dit avec beaucoup de netteté. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, aujourd'hui, la philosophie devient nécessaire. Si on veut rester un homme, si on veut dépister les erreurs, ça devient nécessaire. Ça ne suffit pas la foi. Parce que la foi nous donne un regard merveilleux, comme nous le verrons, bien plus grand que la philosophie, c'est bien évident. Mais la foi ne précise pas certaines choses. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Ça, Dieu ne veut pas. C'est pas parce que Dieu, nous avons la foi que nous avons à nous tourner les pouces en disant « c'est pas la peine de réfléchir ». Pas du tout. Si je suis croyant, je veux réfléchir encore plus. Parce que je comprends que l'enjeu est très important. L'enjeu, c'est l'homme. Et je suis responsable de l'homme, c'est ça qui est extraordinaire. Je suis responsable d'abord de moi-même et je suis responsable de mes frères. C'est le propre de l'espèce humaine, si vous voulez. Le chien n'est pas responsable du chien, si digne qu'il soit. Enfin, je me demandais s'il était là, alors il fallait faire attention. Si digne qu'il soit, le chien n'est pas responsable du chien. L'homme est responsable de l'homme. Et c'est vrai, il est responsable de l'homme. Il doit découvrir progressivement toute sa noblesse, toute sa grandeur. Et c'est pas commode de le découvrir. Ça demande une réflexion philosophique. La philosophie est donc ordonnée à l'homme. Elle est pour l'homme. Normalement, après ces 5 jours où vous êtes entré un tout petit peu dans la philosophie, vous serez plus homme. Vous voyez, on va se répondre à la photographie maintenant, et puis la photographie au thème. Alors on fait le réclame à l'olive, avant, après. Votre serait merveilleux. Alors on pourrait jauger exactement quelle est votre conscience d'homme actuellement et quelle est votre conscience d'homme au thème. Et vous comprenez qu'il n'y a pas d'instrument pour mesurer la conscience. Au sens fort, hein, il n'y a pas d'instrument. Il y a des tests, oui, il y a des tests, oui. Mais les tests ne mesurent pas la conscience, au sens profond, ne mesurent pas la conscience philosophique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que toute réflexion, c'est une réflexion à la philosophie, toute réflexion philosophique, qui est l'amie de la sagesse c'est quoi ? C'est ce que l'homme est capable d'atteindre, en définitive. Toute réflexion philosophique est pour l'homme. Donc elle est ordonnée à l'homme. Tandis les idéologies. Et ici je parle avant tout des grandes idéologies qui sont nées depuis 150 ans. Elles étaient déjà avant, si vous voulez. Il y a toujours eu des idéologies. Toujours. Depuis que l'humanité existe, il y a eu des idéologies. Mais la différence, c'est que maintenant, ces idéologies se sont systématisées. Tandis qu'avant, elles n'étaient pas systématisées. C'est avec la philosophie hegelienne, ça c'est on ne peut pas nier, c'est tout le monde le reconnaît. C'est avec la philosophie hegelienne que les idéologies se sont systématisées. Parce que Hegel veut un système. Alors, avec Hegel, les idéologies se sont systématisées. Et qu'est-ce que c'est que les idéologies? Les idéologies mesurent l'homme dans une perspective idéologique. L'homme est en vue de l'idéologie et pour l'idéologie. On peut dire que les idéologies tyrannisent l'homme. Et ce qui n'est pas en conception, dans la vision de cette mesure idéologique, doit être supprimé. Je vais vous faire comprendre une petite anecdote pour que vous saisissiez bien. Non, je me souviens, il y a déjà assez longtemps, j'avais visité à Fribourg, tout près de Fribourg, la Val Sainte, qui est une très belle chartreuse. Alors, on fait visiter aux gens, la chartreuse, c'est toujours un peu quelque chose de mystérieux, on ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est complètement fermé. On ne visite pas. On est l'eau vive, on peut visiter. On dit là, on ne visite pas. Mais, quand même, pour satisfaire la curiosité des gens, on visite une petite maison chartreuse. Pour montrer un tout petit peu comment un chartreux peut vivre dans sa petite maison. Chaque chartreux a sa petite maison, pas seulement sa cellule, mais sa petite maison. Alors on vous montre, et on dit, le père hôtelier dit, chaque chartreux a exactement la même maison. L'égalité. Alors on voit le lit du chartreux. Alors là-dessus, je me souviens, il y avait avec moi, avec tout un petit groupe, un grand Américain qui dit « Ah, le lit est toujours de la même taille. » Ça fait partie de l'égalité. Non. C'était une question, évidemment, que l'hôtelier n'avait jamais pensé, à laquelle il n'avait jamais pensé, je crois. Alors, il dit « Oui, parce que tous, on a la même petite maison. Alors, si on est très grand, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, du même ton, l'hôtelier répond, on lui coupe les pieds. Bon, c'est très, très, très net. Hein. La maison idéologique, vous voyez, il mesure l'homme. Si l'homme a une dimension plus grande, on lui coupe les pieds. Mais là, on lui coupe la tête, c'est différent. N'est-ce pas ? L'idéologie coupe la tête. Alors, l'idéologie coupe la tête parce que si vous n'êtes pas dans le gabarit d'idéologie, vous êtes en dehors. C'est extraordinaire de voir ça. Et alors, les hommes se laissent prendre par ces idéologies et entrent dedans. Parce que ces idéologies impliquent une éducation. On éduque l'homme pour comprendre que l'idéologie mesure l'homme. Alors, quelquefois, on dira, les idéologies sont en vue de l'humanité. Et ça, c'est très, très. Ça revient exactement au même. Parce que l'humanité, c'est quelque chose d'abstrait. Vous n'avez jamais vu l'humanité. Vous avez vu des hommes. Alors l'idéologie donne une vision de l'humanité. Et c'est l'humanité qui mesure les hommes. C'est significatif, ça. C'est exactement la même chose. Hein? En réalité, quand on dit que l'idéologie regarde l'humanité, en réalité, c'est l'idéologie qui mesure les hommes. Parce que l'humanité, c'est quelque chose d'abstrait. On en fait ce qu'on veut. Alors, il y a une idéologie de manière à dire, ah, vous voyez, nous sommes pour l'homme, nous sommes pour l'humanité. Oui, mais attention, en réalité, vous avez une vision et une idée de l'homme qui mesure l'homme. Et tout ce qui n'est pas dans cette mesure, vous ne le respectez pas. Vous voyez, autrement dit, l'idée est première, la réalité est seconde. Tandis que dans la philosophie, la réalité est première et la philosophie est seconde. Il y a inversion. Oui. Ça n'alerte rien, mais c'est capital. Ce sera cette petite inversion sur laquelle on viendra tout le temps. La pensée est-elle première ou ce qui est-il premier ? Alors, c'est toute la question sur laquelle on viendra constamment. Je vous le dis tout de suite parce que c'est une petite clé, ça. C'est un petit passe-partout. Quand la pensée est première, nous sommes en présence de l'idéologie. Quand ce qui est premier, on est en présence d'une philosophie. Philosophie réaliste. Je regarde en premier ce qui est. Alors vous avez là donc la relation inversée entre l'idéologie et l'homme, ou entre la philosophie et l'homme. C'est pour ça que je peux dire, dans une véritable philosophie, la philosophie est pour l'homme, dans une idéologie, l'homme est pour l'idéologie. Ça, c'est une première donnée très importante. Je vais vite, hein, forcément, parce que si on pourrait rester là pendant 5 jours, hein, regardez toutes les idéologies, regardez que c'est toujours le même système qu'on retrouve. Parce que derrière, vous retrouvez la dialectique hegelienne. Sous-jacent, vous retrouvez la dialectique. Et vous voyez que tout le temps, on commence par l'idée. Et on ne regarde pas la réalité en premier lieu. Autrement dit, l'idéologie commence par une réflexion sur l'idée, tandis que la philosophie commence par l'expérience de la réalité. Vous avez là deux points tout à fait différents qui sont très importants à comprendre. C'est le point de départ. Est-ce que vous commencez par une réflexion sur les idées? Est-ce que vous commencez par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'expérience? Nous faisons actuellement une expérience ensemble. Parce que quand vous écoutez un cours, vous faites une expérience. C'est une expérience, évidemment. Normalement, c'est une expérience. Si vous venez ici avec des idées a priori, vous mesurez ce qu'on vous dit en fonction de vos idées. Vous continuez d'être un idéologue. C'est constamment comme ça, c'est extraordinaire. Quand on fait la petite expérience de l'enseignement, on voit tout de suite. On voit tout de suite, il y a des quantités de gens qui viennent avec des idées a priori. Donc, pratiquement, ils ne progressent plus. Ils ne progressent plus parce qu'ils mesurent ce qu'on dit en fonction de leurs idées. Alors, à ce moment-là, ils ne progressent plus. Si au contraire, ils ont cette humilité fondamentale de dire, mais oui, il y a quelqu'un qui a travaillé ça, qui a cette perspective. Je ne vous demande pas d'être tout le temps mon avis, ça c'est bien évident. Vous avez progressivement, vous avez votre réflexion à vous. Mais je vous demande au moins qu'on vous laisse comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord, en fonction de quoi. Et est-ce que vous respectez cette expérience qui fait qu'on est ensemble, on dialogue ensemble, un dialogue assez particulier, parce que je parle plus que vous, mais je vous laisserai quand même la parole tout à l'heure. Pas maintenant, mais cet après-midi, bon. Alors vous pourrez poser vos questions et réagir pour montrer que de fait, c'est vrai, nous cherchons la vérité ensemble. Je ne cherche que la vérité. Je ne cherche pas du tout à vous communiquer mes idées. Parce que mes idées, elles ne valent qu'en fonction qu'elles représentent la réalité. Ce que je cherche, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est la réalité. C'est la vérité. Si vous cherchez vous aussi la vérité et que je cherche la vérité, nous pouvons faire œuvre commune ensemble. Et si nous faisons œuvre commune ensemble, progressons. Si au contraire, vous venez avec vos idées a priori, dire « Ah, je vais voir si ces idées sont conformes avec celui qui parle. » À ce moment-là, vous ne progressez pas, vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez tout simplement que vos idées soient la mesure du reste. Ce n'est pas la vérité, ça. C'est pas comme ça, vous voyez, comme quand la philosophie est une purification de notre intelligence. Je crois que la philosophie consiste progressivement à supprimer tous nos a priori. J'aimerais assez bien définir comme ça la philosophie. Supprimer tous nos a priori pour être réceptif à l'égard du réel. Pour être capable de rencontrer le réel. Capable de le regarder. De ne pas avoir des idées a priori qui fait qu'on voit uniquement cela. Vous voyez la différence entre le petit sentier dans la montagne et l'autoroute. L'autoroute, il y a le bulldozer. Hein. Bon, l'autoroute, c'est fait sur un plan, c'est très très net. Tous les obstacles y paraîtront, on aura le bulldozer. Tandis qu'avant, quand on n'avait pas le bulldozer, on était bien obligé d'essayer de regarder, ah tiens, ça pourra passer par là, là, c'est impossible, on fera un petit peu tout le monde. On respecte la réalité. Et en respectant la réalité, on essaie de saisir le petit sentier, la petite voie qui respecte la réalité pour atteindre le but. Donc je crois, faisons attention, ça ne pourrait pas être une comparaison, ce n'est pas tout à fait adéquat, mais c'est quand même quelque chose d'assez net. C'est que quand on a un a priori, on a un plan. Un plan, c'est un a priori. Ça, c'est sûr. Regardez les architectes.
pas s'il y en a parmi vous, mais c'est les architectes, c'est très très net, ils ont la plus c'est peut-être comme ça.
D'après le plan, c'est comme ça. Oui, il y a des obstacles, vous n'avez pas vu la réalité, vous n'avez pas vu le contexte, vous n'avez pas vu comment ça devait se régler. Ça n'a pas d'importance, la machine est là. Non, on fera n'importe quoi. Puis alors, après, il devra. Il y a beaucoup de lieux où je connais, il y a des choses comme ça. Alors, le plan était comme ça, alors après, on viendra, il va dire, mais on aurait pu faire la chose bien plus simplement. Je me souviens qu'au seul choix, on avait construit un nouveau couvent dans un lieu qui était au près de la Seine. Alors, tous ceux qui savent un tout petit peu ce que c'est que la Seine savent que autour de la Seine, on a un terrain d'alluvion. Il a fallu donc construire d'une façon souterraine des pilotis qui ont coûté plus cher que ce qu'on a construit au-dessus. Alors qu'à 50 mètres, on a quitté le rivage de la Seine et on avait le roc. L'architecte n'a pas été capable de comprendre ça. C'était un grand architecte. Il était le père d'un des frères. C'est pas pour ça qu'il était grand. Mais il était grand parce qu'il avait la réputation d'être un grand architecte. Vous voyez, l'a priori. Un plan peut être un a priori. Alors, les idéologies, c'est un a priori. On a un a priori sur l'homme. Peu importe, ça, qu'une espèce d'importance que l'homme crève, l'idéologie restera. Et vous comprenez très bien que si l'homme crève, l'idéologie mourra. Parce que l'idéologie est portée par l'homme. Mais il y aura le dernier idéologue qui restera avec son idéologie en disant les hommes sont des imbéciles, vous voyez bien, ils sont tous morts à cause de mon idéologie. Et lui-même mourra en fonction de son idéologie. C'est très très important de comprendre ça. Qu'est-ce que ça. Je vous dis, les exemples concrets de notre vie nous le montrent tout le temps, ça. C'est que quand on a un plan et qu'on tient plus à ce plan qu'à l'œuvre, un architecte doit être orienté vers l'œuvre et l'œuvre doit être utile. Si vous avez un plan et que vous tenez plus à ce plan qu'à l'œuvre que vous réalisez, vous êtes dans l'idéologie. Pas parce que c'est l'idéologie dans le point de vue pratique. Vous ne regardez pas la finalité. Vous ne regardez pas la réalité. Et vous êtes fixé sur le plan. Donc c'est la querelle constante entre ceux qui sont dans la pratique et ceux qui sont dans la théorie. Alors on dit, ah, le philosophe, c'est de la théorie. Pas du tout. Le philosophe, comme nous allons voir, c'est d'essayer de rencontrer, regarder la réalité. Que la philosophie se soit corrompue dans les idéologies, d'accord. C'est la corruption de la philosophie, des idéologies. Et alors, c'est mettre les idées avant la réalité. Et mettre les idées avant la réalité, ce sont tous les a priori qui viennent nous encombrer et qui viennent nous empêcher de regarder la réalité. Bon, ça c'est très important à comprendre.
Deuxièmement, regardons qu'est-ce que c'est que cette idéologie du positivisme
devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Qui, je crois, est l'idéologie fondamentale. Vous avez saisi ce que représente cette idéologie du positivisme. Je mets numéro 2. Hein. Alors, ici, évidemment, il faudrait comprendre comment le positivisme est vraiment l'idéologie fondamentale, c'est-à-dire que toutes les idéologies impliquent un certain positivisme. C'est la méta-idéologie, si vous voulez. C'est la méta-idéologie. C'est l'idéologie au carré, le positivisme. Qu'est-ce que c'est que le positivisme? Le positivisme, il est né avec Auguste Comte. Vous savez, même Auguste Comte, il a même construit une petite chapelle à Paris qui est la religion positiviste. C'est très, très curieux. Auguste Comte, lui, dit que toutes nos interrogations se ramènent au pourquoi et au comment. C'est pas bête d'avoir dit ça. C'est astucieux. Ça prouve qu'il a regardé quand même certaines choses. Mais il dit le pourquoi, c'est de l'ordre de la finalité. Et le comment, c'est c'est de l'ordre de l'efficacité. Il dit à peu près ça. Je résume, mais c'est à peu près ça. Auguste Comte nous dit le pourquoi, c'est la vieille métaphysique ancienne. C'est l'âge de l'infantilité. C'est l'enfant qui pose les pourquoi. L'enfant pose les quantités de pourquoi. Tandis que l'homme arrivé à l'âge adulte ne pose plus les pourquoi. Ce qu'il veut, c'est transformer la réalité. Vous voyez, Marx avait dit quelque chose de semblable. Jusque-là, les philosophes se sont contentés de vouloir connaître la réalité. Eh bien, moi, je veux changer la réalité. C'est du positivisme. Et on retrouverait le positivisme à l'intérieur de toutes les idéologies. C'est pour ça que c'est si important. Parce que tant qu'on ne sait pas purifier l'idéologie du positivisme, on reste dans l'idéologie. Et on est bon pour le marxisme. Ça, c'est très vrai. On est bon pour le marxisme. Tant qu'on n'a pas découvert quelque chose de beaucoup plus radical. Alors, ce qui est très très curieux, vous voyez, enfin, politiquement, on pourrait dire que dans les dernières élections, les deux étaient des idéologues. L'idéologie du marxisme, du libéralisme, l'idéologie du socialisme. Ce sont deux idéologies. Et deux idéologies positivistes. Alors, je vais essayer d'expliquer. Hein. Je prends ça, le point de départ d'Auguste Comte. Il y a le pourquoi et le comment. La science positive recherche le comment. Tandis qu'au contraire, toutes les anciennes philosophies et métaphysiques et théologies recherchent le pourquoi. Il faut donc supprimer de notre intelligence cette réflexion du pourquoi. Parce qu'elle est un mythe. Elle est imaginative. Je ne peux affirmer que des choses lointaines, que je ne peux pas mesurer. Quand je dis, par exemple, que l'homme est fait pour aimer, l'amour ne se mesure pas. Si l'amour ne se mesure pas, il n'est pas réel. Il n'est pas objectif, il n'est pas réel. Seul devient objectif et réel ce qui est capable d'être mesuré. Vous voyez, j'identifie la connaissance et la mensuration. J'identifie la connaissance et la mensuration. Je considère que la connaissance est premièrement une connaissance d'ordre positif. Et qu'est-ce que c'est que cette connaissance positive ? C'est une connaissance qui implique une mensuration. Alors, si on cherche un tout petit peu, on voit qu'on ramène le réel à ce qui est capable d'être mesuré, c'est-à-dire la quantité. Donc, il y a un a priori terrible. Tout l'ordre de la qualité ne peut pas être mesurée. Nous reverrons ça progressivement, je vous le pose tout de suite, hein, parce que c'est là où il faut saisir la chose. La qualité ne peut pas être mesurée. Vous la saisissez pas. Les artistes, ça ne sort pas bien. Ça, très bien. La qualité, c'est une fois que vous une question du goût. Les gens, quand vous êtes quelqu'un qui n'a aucun goût, vous n'arriverez jamais à le faire comprendre. Jamais, jamais, comment on va. Alors, on sait, on passe son chemin. Parce que la qualité est d'ordre d'une saisie intérieur qui n'est pas mesurable. Tandis que la quantité est mesurable. Vous voyez, c'est curieux. On trouve là quelque chose de très très fondamental. Regarder le monde du côté quantitatif, c'est permettre de transformer le monde. Regarder le monde d'une façon qualitative, c'est de permettre de compléter le monde. C'est pas du tout la même chose. On verra exactement la même chose du côté de l'homme et la femme. La rivalité quantitative de l'homme et la femme, ça c'est de l'ordre de la mensuration. Tandis que considérer que la femme est le complément, c'est de l'ordre qualitatif. Donc, toujours le même problème. L'ordre quantitatif va mettre la rivalité. L'ordre qualitatif amène le point de vue de la complémentarité et de la finalité.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez Auguste Comte ?
Auguste Comte fait un tournant très extraordinaire. Il dit la seule chose qui est intéressante pour les hommes, c'est de mesurer les choses. Par là, on peut transformer le monde. Vous voyez, point de vue de l'efficacité. Et c'est vraiment cela qui fait l'exaltation de l'homme. L'homme mesure toute chose, la fameuse ancienne définition de l'homme. L'homme la mesure de toute chose. Mais quand l'homme se fait mesure de toute chose, il y a une réaction immédiate après, c'est que son idéologie qui prétend mesurer toute chose va le mesurer lui-même. Et il devient dupe de l'idéologie. Très curieux, ça. Alors, Auguste Comte, lui, surtout à la fin de sa vie, Auguste Comte rejette l'existence de Dieu. C'est bien évident, parce que Dieu, vous ne mesurez pas. Si vous mesurez Dieu, ça vous dit que ce n'est pas Dieu. Donc, Auguste Comte rejette l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Donc, c'est un positivisme athée. Dieu ne peut pas être dans une éprouvette. Dieu ne peut pas être dans une idée. Donc, il rejette Dieu, mais il reconnaît que l'homme, dans ce qu'il a de plus grand, est un être religieux. Et alors, il y a cette chose très curieuse, c'est que Auguste Comte maintient l'aspect religieux, c'est d'être serviteur des hommes. Et vous retrouvez ça chez quelques-uns. Au fond du socialisme, vous retrouveriez ça. Le socialiste apparaît généreux parce qu'il est serviteur de l'homme. Et bien, il veut être serviteur de l'homme. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'en réalité, il n'est pas du tout serviteur de l'homme. Il mesure l'homme. Je serai serviteur de l'homme tel que je l'ai conçu. Et en réalité, derrière ce service de l'homme, il y a une terrible tyrannie. C'est qu'on ramène l'homme à une idée sur l'homme. Et ramener l'homme à une idée sur l'homme, c'est enlever la finalité propre de l'homme qui échappe à tout système. Et c'est très curieux, Auguste Comte est c'est naïf, Auguste Comte. C'est l'immense avantage d'Auguste Comte, c'est qu'il est naïf. Alors, il dit les choses naïvement, et on voit qu'on est en plein Auguste Comte aujourd'hui. Il a fait beaucoup de petits. Et on les voit. Alors les petits sont beaucoup plus distingués, évidemment. Ils ne le montrent pas, ils ne le disent pas. Voyez-moi, je démasque en disant ça. Et il a dit, démasquer, c'est très simple. C'est que considérer que l'interrogation du pourquoi et de la recherche de la finalité, ce n'est pas quelque chose de possible, c'est de l'ordre du mythe. La métaphysique est de l'ordre du mythe. La métaphysique est déterminée. La recherche profonde de la finalité, ça ne signifie rien du tout. Et donc, en supprimant le point de vue de la finalité, vous supprimez l'esprit. Et vous ramenez l'homme uniquement à une raison qui mesure la réalité quantitative. Bon, vous voyez, ça c'est très important de le comprendre. Hein. La grande idéologie fondamentale qui est présente à toutes les autres idéologies, c'est le positivisme. Et le positivisme est commun entre l'Est et l'Ouest. Le positivisme est commun entre Mitterrand et Giscard. Vous voyez ? Ils peuvent se donner la main là. Parce qu'il y a un positivisme des deux côtés. Et c'est quelque chose d'important de comprendre ça. C'est très très important. Parce que comment voulez-vous que deux positivistes puissent vraiment sauver l'homme ? Non, tous les deux ont un moyen de regarder l'efficacité. Tout simplement. C'est plus la finalité, c'est plus l'œuvre. La politique n'est plus au service de l'homme, l'homme est au service de la politique. Si vous n'entrez pas dans mes idées, vous êtes bon à rien. Je vous rejette. Il faut entrer dans mes idées. Il n'y a aucun respect de l'homme. Aucun respect. C'est l'homme qui est au service de ses idées. Bon. Troisième point. Je vous mets l'exprès, parce que comme c'est des choses tout à fait fondamentales que nous voyons ce matin, et on verra tout le temps, troisième point. Celui que nous allons considérer maintenant. le regard sur le vivant. Et le vivant pour nous, vous allez voir tout de suite, le vivant pour nous, c'est l'homme. Donc, c'est l'homme en tant que vivant. Si je suis positiviste, je me mets d'abord dans la position du positiviste. Si je suis positiviste, je n'ai qu'un seul regard sur l'homme vivant. C'est le regard des sciences biologiques. Les sciences biologiques regardent le vivant. La biologie regarde le vivant, on est tous d'accord. On regarde le vivant. Si je suis positiviste, sans le savoir, ça n'est pas important, sans le savoir, je suis positiviste, sans trop bien le savoir, mais j'agis en positiviste. Si je suis positiviste, je dis qu'il n'y a qu'une seule connaissance du vivant, c'est la connaissance mono. Mono était positiviste. Sans le savoir, du hasard, la nécessité du hasard. C'était un regard purement positiviste. On ne peut connaître le vivant qu'en fonction des sciences biologiques. Il n'y a pas d'autre connaissance du vivant. Il n'y a pas d'autre connaissance de l'homme que par les sciences biologiques. Mono allait jusqu'à dire, et ça en voit très bien la conséquence, il l'a dit dans les rencontres internationales à Genève, Mono allait jusqu'à dire que dresser un chat ou éduquer un enfant, c'est exactement la même chose. Et là, dans les conclusions, vous voyez tout de suite le positif. Dresser un chat à être propre, hein, un animal qui soit un peu propre, parce qu'un chat sale, c'est très 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 mauvais. Mais non, ça ne va pas du tout. Mais dresser un chat pour qu'il soit propre, pour que ce soit le petit animal domestique. Et puis éduquer un enfant pour qu'il soit propre, c'est exactement la même chose. Pas de différence. Et Mono ajoutait, c'est la science qui doit mesurer l'éducation. C'est la science qui mesure la morale. C'est la science qui mesure la communauté humaine. Alors là, vous avez un exemple très très net d'un positivisme absolu. Je crois que Mono représente le positivisme le plus absolu. Je connais bien un des élèves de Mono qui a suivi Mono dans ses différents séminaires.